dans le camping, les soirées du lundi sont dignes de celles d'un samedi soir.
C'est à la France que fut confiée l'organisation du 10e rallye international de camping.
La zone la plus touchée, c'est celle du camping.
Radio Camping Paris.
C'est tout l'été, du lundi au jeudi, de 19h à 20h.
C'était une volonté de la ministre de la Culture, Audrey Azoulay. C'est maintenant une loi qui a été adoptée par le Parlement le 29 juin dernier. Les radios françaises vont devoir faire un effort sur leur programmation musicale. Dans le cadre de la loi Création et Patrimoine, les sénateurs et députés ont adopté un amendement qui contraindra les radios à utiliser plus de 10 titres pour remplir leur quota de chansons francophones diffusées. Alors oui, ça signifie que jusqu'alors, toutes les chansons francophones que vous écoutiez sur Energy, Virgin et autres Skyrock et Fun Radio étaient concentrées en 10 petites chansons sur des playlists actualisées souvent par mois, dans le meilleur des cas toutes les semaines. Alors les radios, elles créent au scandale en prétextant que leurs libertés sont restreintes, mais est-ce qu'elles se rendent compte de ce que ça représente 10 titres par rapport au nombre d'heures de diffusion par jour? L'Observatoire de la musique avait soulevé en 2013 que toutes les grandes radios que j'ai déjà citées partagent 50% de leur programmation en commun. Et moi, en cette période estivale où on prend la route pour partir en vacances, je pense à vous, chers auditrices et auditeurs, à vous qui vous faites massacrer les oreilles par la même chanson des frérots de la Vega pendant vos 5 heures de trajet vers la mer. Cette loi, c'est un petit pas pour vous, un tout petit, qu'en appellent d'autres, celui d'imposer plus de nouveautés, d'artistes émergents. Pourquoi pas de rêver à des quotas de genres musicaux sur les ondes qui demanderaient à Energy de s'intéresser à autre chose qu'à la dance music pourrave de David Guetta et à Virgin de revoir sa conception du rock. Finalement, en cette période de vacances où tout le monde va prendre la route, c'est vous, chers parisiens, qui êtes les plus chanceux, car vous pouvez profiter tout l'été sur le 93.9 de la seule radio qui n'a aucun problème avec ses quotas musicaux.
Radio Camping Paris.
Et oui, il y aura de la bonne musique ce soir, comme toujours, hein, sur Radio Campus Paris 93.9 ou bien sur Internet si vous nous écoutez sur notre site web radiocampusparis.org. Avec nous ce soir, Judith Despaules, directrice artistique, et Ariel Sipel, directeur de Confluence, un espace qui est connu pour proposer à la fois des spectacles vivants, des expositions, des concerts et même des films documentaires. Un espace qui est aujourd'hui dans une situation assez délicate entre une menace d'expulsion de la part, une menace d'expulsion et une possible liquidation judiciaire. Ils nous expliqueront l'importance et la diversité de leurs actions ainsi que la situation dans laquelle ils sont actuellement. Et comme chaque soir depuis le début de la semaine, on retrouvera Sarah et ses aventures de la philosophie à Santa Barbara ainsi que notre fiction de l'été écrite par le formidable Maxime et une chronique de mon camarade Guillaume. Alors surtout, restez bien avec nous sur le 93.9 pour Radio Camping.
Cela a été une erreur au cours des deux premières années du quinquennat de François Hollande de baisser le budget de la culture.
Il y a des lieux associatifs, il y a des lieux associatifs pour les jeunes. Il y a des lieux associatifs, il y a des lieux associatifs pour les jeunes.
Cela a été une erreur, cela a été une erreur, cela a été une erreur, François Hollande, de baisser le budget de la culture, François Hollande. Cela a été une erreur, baisser le budget de la culture, François Hollande. Cela a été une erreur.
Cela a été une erreur, c'est vrai, de François Hollande, et on a besoin de lieux associatifs pour les jeunes. On remercie Charlène pour ce magnifique mix. Confluence, c'est un lieu que vous connaissez peut-être si vous nous écoutez depuis quelques temps, parce que c'est un lieu qu'on apprécie beaucoup à Radio Campus Paris. Un lieu de création, d'échange, de partage, où se croisent des créations artistiques de tous les genres et pas moins de 10 000 spectateurs chaque année. Et c'est un lieu qui est aujourd'hui menacé de disparition. Alors pour en parler avec nous ce soir, nous recevons Judith Despaules, c'est ça ? Qui vous êtes donc directrice artistique de Confluence. Judith, bonsoir.
Bonsoir.
Avec moi également en studio, Ariel Sipel, directeur de Confluence. Bonsoir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Judith, je viens de dire, vous êtes directrice artistique à Confluence. En quoi ça consiste, votre rôle de direction artistique au sein de l'organisation ?
Eh ben, ça veut dire que je participe activement à la programmation, que je fais des propositions thématiques et événementielles.
C'est-à-dire que vous choisissez un peu les artistes qui vont passer, les thématiques eux-mêmes
qui vont être abordées. Plutôt d'abord les thématiques que les artistes. En fonction des thématiques, on choisit des artistes.
D'accord. Et vous, Ariel, du coup, j'imagine qu'en tant que directeur, vous avez peut-être un peu plus les mains dans ce qui va être le financier, ou vous travaillez également dans le domaine artistique ?
Je ne vais pas dire comme Jacques Chirac que j'ai les mains dans le cambouis, mais je travaille effectivement, je gère l'association, mais je travaille aussi avec Judith à la programmation, et je m'occupe plus spécifiquement des destinées économiques de cette association.
Alors Confluence, c'est un espace déjà qui est immense, 700 mètres carrés.
750
mètres carrés, situé dans le 20e, c'est ça ?
Oui.
Comment il est organisé cet espace? Il y a différentes salles qui ont différentes fonctions. On trouve des salles de représentation, mais également d'autres espaces, des espaces d'exposition.
Il y a une salle de spectacle qui a une capacité environ de 70 places, un hall d'exposition un peu modulable qui est totalement attenant à un bar avec un hall, donc un endroit de convivialité assez important. Deux salles de répétition, des bureaux et... depuis quelques mois, des logements pour des réfugiés syriens.
Oui, on aura l'occasion de reparler de votre rôle aussi auprès des réfugiés syriens.
Ces salles de... Et une boîte de production aussi.
Et une boîte de production
de cinéma.
Également.
De cinéma, oui, absolument.
Et ces espaces, ces salles de répétition notamment, c'est des espaces qui sont mis à la location pour diverses compagnies qui souhaitent...
Non, ce sont des espaces pour essentiellement des résidences pour des artistes.
Pour faire des résidences.
Il faut savoir qu'à Paris... ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a une offre très importante de spectacles à travers des dizaines de salles, mais des conditions absolument médiocres de travail pour les artistes et un manque d'espace de travail. Et les espaces comme Confluence offrent à peu près à une quarantaine de compagnies par an un moment de résidence, c'est-à-dire un moment de répétition, d'expérimentation, un moment de recherche pour pouvoir réaliser leurs œuvres.
Oui, parce qu'avant la représentation, il faut pouvoir travailler dans des conditions
théoriquement,
à peu près
oui.
correctes.
Sinon,
on peut pas. Oui,
il faut surtout pouvoir essayer aussi. Aussi, quitte à se planter dans un premier temps, c'est-à-dire la confrontation avec le public, elle a toujours ça d'essentiel qu'à un moment donné, on est obligé de se fixer un rendez-vous et une date où on doit montrer quelque chose. Donc c'est ça, on fait beaucoup ça, des sorties, ce qu'on appelle des sorties de résidence ou des lectures, ça dépend des quels sont les collectifs qui passent et ce qu'ils ont envie de faire. C'est-à-dire à un moment donné, on ouvre la porte de la salle de répétition pour que le public vienne voir ce qui s'y passe. Et c'est toujours un moment très apprécier des artistes parce que c'est un moment de vraie confrontation où on peut faire le point sur où on en est dans sa création et du coup comment on va travailler par la suite.
Parce que du coup une résidence, qu'on comprenne bien, ça va être un moment qui va être assez long dans le dans le temps.
Voilà, une résidence c'est entre une semaine à X semaines
Plusieurs artistes qui viennent peut-être de plusieurs univers qui vont pouvoir...
Non, en l'occurrence c'est à chaque fois c'est des projets, alors
d'accord.
chaque projet s'articule selon le projet avec plusieurs ou pas d'artistes. Voilà, ils répètent ou ils font, je sais pas, ils écrivent,
ils travaillent.
Et à un moment, ils ouvrent la porte au public en disant voilà, on en est de notre travail.
Parce que c'est une vraie volonté du lieu de Confluence d'accompagner les artistes et ça se traduit également à travers des ateliers et des cours qui sont proposés à Confluence.
Oui, alors ça, c'est la deuxième activité, effectivement. Donc il y a des résidences et il y a des cours qui sont des cours de théâtre et de danse et de mouvements divers qui sont proposés là plutôt à un tout public.
Oui, là, c'est plutôt des cours pour s'initier ou pour
Exactement.
Progresser pour le public, pour le coup. On va parler un petit peu de ce qui se déroule actuellement à Confluence. Avant de parler de la journée de samedi, j'aimerais revenir sur la journée de vendredi. Parce que vendredi, il y a ce qui s'appelle donc le Aléa numéro 6, Random Bazar, c'est ça ? Numéro 6, parce qu'il y en a déjà eu 5 avant, j'imagine.
C'est ça.
C'est devenu plus ou moins un rendez-vous. Mais merci Guillaume.
Quelle perspicacité.
Je travaille avec mes doigts.
En fait, on a commencé à collaborer avec le label Darline Dada dans le cadre de la 8e édition de Péril Jeune. Et on leur a proposé depuis de faire un rendez-vous mensuel, enfin en tout cas un rendez-vous régulier, parce que parfois, comme on a d'autres événements, il y a des choses qui se télescopent. Voilà, donc c'est devenu un rendez-vous pour la jeune scène électro.
Ça se déroule toujours avec le Random Bazar, donc qui est un collectif.
Non, ça se déroule toujours. C'est toujours chapeauté par Darline Dada qui invite un guest à chaque nouvelle soirée. En leur disant en leur proposant d'orchestrer la soirée. Mais c'est Darline Dada qui a l'initiative de la chose et qui lui-même fait après sa programmation à l'intérieur de ce créneau-là.
D'accord.
C'est-à-dire que on s'est mis d'accord avec le collectif Darline Dada qui ensuite lui fait sa propre programmation à l'intérieur de ça et ça change en fait à chaque soirée, il y a un nouveau guest.
Et donc du coup pour parler de celle de ce vendredi, du coup ce sera un enchaînement de c'est des DJ sets, c'est un enchaînement d'artistes. J'ai vu notamment le nom de Harley, qui est un DJ qui fait un travail qui est extrêmement intéressant, que je trouve extrêmement intéressant, parce que lui, il aime la techno qui est un petit peu bien péchu. Il va même jusqu'à remixer des morceaux de métal, des morceaux un peu étranges de métal en techno, et ça vaut vraiment le coup d'œil. Et donc, après cette soirée, qui commencera vers quelle heure ?
Ça commence vers 20h30 en général.
20h30, il faut réserver avant sur...
Non, il faut venir.
Il faut venir.
Voilà. Il faut venir
c'est
et
gratuit.
Puis ça dure jusqu'à... C'est très peu cher, je crois que c'est 7 euros l'entrée maximum en général. Et voilà, et ça dure jusqu'à 2h du matin. Et vous êtes les bienvenus.
Le prix d'une pinte pour s'amuser pendant des heures.
Et oui.
Voilà.
Et donc...
Chez nous, la pinte est à 5 euros. Elle n'est pas à 7 euros, mais à 5 euros.
La pinte
en
à
plus,
5 euros.
Argument d'autorité.
En plus, la pinte est à 5 euros au bar.
Ça, c'est,
toute la
ça,
nuit.
Ça, c'est
hein,
un vrai argument, surtout en cette période estivale.
Et on peut rentrer danser dans la salle avec sa pinte.
Et ça, c'est beau.
Et on peut sortir fumer avec sa
et
pinte.
Et on peut sortir avec sa pinte parce que devant Confluence, il y a une impasse. Donc, on peut être à la fois dedans et dehors.
L'interview culturelle pragmatique.
Je te vois séduit par cette politique.
Je suis conquis.
Et donc le lendemain, la soirée, enfin la journée qui nous intéresse aujourd'hui, donc ce samedi, une journée organisée pour soutenir Confluence. On reviendra sur les raisons qui font que Confluence a besoin d'être soutenu. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer avant cela comment ça va se passer cette journée du samedi?
Alors, c'est une journée en trois temps. La première chose, c'est qu'à 16h, on organise un débat sur la question de la création indépendante est-elle soluble dans le socialo ou le social-libéralisme. Voilà, où on aimerait interroger la politique culturelle, notamment de la ville de Paris. Mmh. Ensuite, il y a un moment plutôt réservé aux tous les artistes qui nous accompagnent ou qui ont pu se produire à Confluence et qui vont témoigner d'une façon ou d'une autre sous forme d'impromptu très court, jusqu'en de 18 à 20 heures. Et ensuite, on enchaîne avec une soirée festive.
Et ben, on va continuer d'en parler après une petite pause musicale. Et on vient de s'écouter La Piscine de Hypnolove.
Vous écoutez Radio Camping Paris sur le 93.9.
Nous sommes toujours en plateau dans Radio Camping sur le 93.9 avec Judith Despaul, directrice artistique, et Ariel Sipel, directeur de Confluence. On évoquait avant la pause l'événement à venir samedi, cette journée de mobilisation qui est organisée et qui commencera autour de 16h, c'est bien ça?
Absolument.
Mais avant de rentrer dans le détail, on va essayer de comprendre un peu la situation dans laquelle est Confluence actuellement. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de soutenir Confluence? Donc, pour revenir vraiment à la base, là, cet été actuellement, Confluence est sous la menace d'une expulsion, en fait, de perdre le lieu, c'est ça ?
Absolument. Confluence est un lieu qui est en précarité permanente depuis quasiment une trentaine d'années, mm-hmm. parce qu'elle occupe un espace dans le 20e dont elle n'a pas les moyens de payer le loyer. Donc elle est arrivée à la situation en 2014 où il a fallu qu'elle se mette en redressement judiciaire. Pour nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, en fait c'est une mesure de sauvegarde qui permet de geler pendant 12 mois ses dettes et de les payer de façon étalée, mais c'est aussi un signal très fort qui dit voilà, on n'y arrive pas. Et depuis des années, on essaye de partir de ces locaux qu'on n'arrive pas à payer. Donc aujourd'hui, on a perdu notre bail. Et donc on est sous la menace d'une expulsion et on est aussi sous la menace d'une liquidation judiciaire, c'est-à-dire d'une faillite de l'association qui n'a plus les moyens de vivre. Et la question qui est posée, effectivement, c'est le prix de ce type de lieu qui est relativement très peu cher pour le nombre de choses qu'ils font, et la politique culturelle de l'État, de la région, de la ville, à l'égard de ces lieux qui font énormément de choses, qui sont des outils de ce qu'on appelle de taille intermédiaire, où énormément d'artistes émergents démarrent. Et si tout le monde, la main sur le cœur, dit que c'est important pour lui l'existence de ce type de lieu, en termes pratiques, en termes économiques, en termes financiers et en termes de soutien politique, ça suit beaucoup moins.
Le Guillaume, peut-être
Oui, mais juste, c'est à qui que vous payez ce loyer,
voilà,
du coup, qui vous coule?
C'est
un méchant propriétaire privé.
Parce que voilà, ce qu'il faut comprendre,
c'est un bailleur privé, donc.
Absolument.
Confluence est une association qui est reconnue d'utilité publique, et c'est pas la mairie de Paris qui vous expulse. Ce que vous payez comme loyer, c'est un bailleur privé.
Nous payons un loyer à un bailleur privé. Confluence est une association de loi 1901, c'est-à-dire que c'est une association privée qui fait une politique de service public de la culture, ce qui justifie les subventions et le soutien des institutions, que ce soit l'État, la région ou la ville. Donc, effectivement, c'est le propriétaire qui veut nous expulser. Mais ceux à qui on demande de nous soutenir et ceux à qui on demande d'avoir une politique culturelle à l'égard des lieux culturels indépendants, c'est aux politiques.
Parce que ce qui manque, c'est plus de subventions. C'est ça le problème. Est-ce qu'elles ont baissé, les subventions ?
Alors oui, elles ont baissé, mais surtout, il y a un moment donné où si vous voulez recevoir de l'argent public pour payer un propriétaire privé, il y a une aberration.
C'est un problème.
Donc la question vraiment, et nous on y a bien réfléchi, ça semble évidence, d'avoir des locaux qui ne coûtent rien ou alors qui coûtent une somme tellement modique que parce que pour l'instant ce qui se passe c'est que la subvention elle arrive et elle fout dans le loyer, voilà. Donc il reste rien, et ça c'est pas possible, c'est quand même complètement absurde.
Cette association qui paye un loyer à un propriétaire depuis 30 ans, avec cet argent et cet argent public, on aurait pu acheter peut-être deux fois le lieu. Et cet argent, il faudrait mieux le donner peut-être aux artistes qu'à un propriétaire privé qui en bénéficie jusqu'aujourd'hui. Et la somme d'énergie qui est dépensée pour trouver cet argent, pour le remettre finalement à quelqu'un qui, par ailleurs, elle me l'a dit, paye son impôt sur la fortune avec, est un peu une gabegie. Donc nous, ce qu'on demande, notamment à la ville de Paris, qui a une responsabilité, parce que c'est sur son territoire qu'un lieu culturel va disparaître, c'est de réfléchir au relogement de Confluence. On est un peu dépité parce que ça fait à peu près 8 ans qu'on leur demande de réfléchir. On les a vus cette semaine et ils nous ont dit « on va essayer de vous trouver quelque chose ».
Est-ce que la mairie de Paris pourrait vous proposer un lieu, en fait ? Vous avez peut-être déjà fait même des demandes pour que la mairie de Paris vous donne un lieu pour exercer les activités.
Ça fait 8 ans qu'on fait des demandes, on a fait même des demandes précises, on a participé à plusieurs appels à projets de la ville de Paris, jusqu'à ce jour sans succès. Donc on nous a expliqué que c'était très très difficile, On veut bien l'entendre que c'est très difficile de trouver un lieu. Ensuite, il faut l'aménager, il faut le rendre aux normes pour le public, pour les artistes. Évidemment, c'est très compliqué, mais il nous semble que ce travail aurait dû être fait depuis très longtemps et qu'aujourd'hui, qu'on arrive à une situation extrême, c'est-à-dire qu'on est au bord de la fermeture, commencer à chercher, c'est un petit peu tard et on est un petit peu triste et, d'avoir été si peu entendu depuis si longtemps.
Parce qu'en plus, c'est pas comme si la fréquentation du lieu baissait. La fréquentation du lieu, elle est toujours plus ou moins la même, voire elle est à la hausse en ce moment.
Elle a bien augmenté cette année. Ouais. On a enregistré 5000 spectateurs en plus cette année, ce qui, par rapport à la capacité d'accueil du lieu, est quand même assez conséquent.
Et en plus, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une envie aussi de la part de Confluence de pratiquer une politique de prix sur les représentations qui permet l'accès à ces représentations à beaucoup de monde, en tout cas tout le monde, aux étudiants, aux plus jeunes, à ceux qui ont un peu moins de moyens. Donc il y a là un vrai service, c'est ça aussi être une association d'utilité publique, c'est avoir un vrai service qui démocratise la culture.
La question de la, c'est pas seulement la question des prix. Bien sûr, c'est la question des prix. Il y a aussi beaucoup d'événements gratuits à Confluence. Il y a aussi des événements à 3 euros ou à 5 euros. Mais c'est la question d'avoir dans un arrondissement comme le 20e, qui est un arrondissement de 200 000 habitants et qui n'a pas d'outils culturels intermédiaires. Le 20e est un arrondissement très festif, il y a beaucoup de bars à musique, mais un outil pour des compagnies, pour des artistes, pour des réfugiés, pour du public, pour pratiquer des ateliers, il n'y en a pas un outil comme celui-là. Et s'il disparaît, eh bien, ce sont des dizaines d'artistes qui ne pourront plus y avoir accès et des milliers de personnes non plus qui ne pourront pas y avoir accès. Donc évidemment que la question tarifaire, elle est centrale, mais ça va au-delà, c'est aussi la question des espaces de travail pour les artistes. Ça veut dire aussi, c'est un lieu pour les associations qui organisent des réunions où on peut s'exprimer. C'est un lieu politique où on organise des débats. C'est un lieu où des réfugiés sont accueillis plutôt que d'être dans la rue. Donc il se passe là des choses importantes. Et si on nous dit qu'elles sont importantes et si elles sont considérées, c'est ce qui justifie nos subventions, c'est jamais assez pour aller au bout d'un soutien qui permettrait à ce type de lieu de sortir d'une précarité dans laquelle il nage depuis des années.
La précarité de Confluence, elle date finalement d'assez longtemps, vous le disiez, presque 30 ans en fait.
Pour vous donner un ordre d'idée, en 5 ans, on est passé de 11 salariés à 4 salariés. C'est-à-dire que les marges de manœuvre après, il n'y en a plus. À ce moment-là, vous pouvez garder un salarié, il se met au téléphone et il loue les locaux. Voilà. Ouais. Mais ça n'a aucun intérêt, bien sûr. Mais si vous voulez avoir une politique d'offre culturelle importante, il faut des intermittents, il faut des salariés permanents pour pouvoir la mettre en œuvre. Il faut accueillir le public, il faut accueillir les artistes.
Mais pour le coup, je voulais revenir sur cette histoire d'accueil de réfugiés, parce que c'est quelque chose dont on ne pense pas spécialement, parce qu'on est sur une activité culturelle. À Confluence, du coup, vous avez accueilli, je crois que c'est 6 personnes réfugiées ou plus.
Non, depuis le début de l'année, on en a accueilli 4.
4, ouais. Qui du coup sont arrivées en situation irrégulière et qui ont été régularisées depuis, c'est ça.
C'est ça.
Et du coup, ils sont encore présents sur le lieu. C'était quoi comme accueil ? C'est proposer un hébergement ?
C'était plus que ça. C'est-à-dire, alors d'abord, après les vacances, les grandes vacances dernières, on s'est vraiment interrogé sur comment est-ce qu'on pouvait réagir à notre échelle, à nous, avec les moyens qu'on avait. Et on a fait un appel à ouverture des lieux culturels. En ayant comme ça l'utopie que peut-être tous les lieux pouvaient faire pareil et que ça serait une façon de participer à cette situation terrible. On est les seuls à l'avoir fait concrètement à Paris. Alors d'autres ont fait d'autres choses, mais pas aussi concrètement que ça. Alors évidemment, nous, nos locaux nous le permettent. Enfin, on a décidé en tout cas que c'était possible en transformant des bureaux en lieu d'habitation et en faisant tous les aménagements qu'il fallait pour qu'ils puissent avoir des douches, un endroit pour se préparer à manger, etc. Et on a surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis, embauché un service civique qui s'est occupé exclusivement de...
Qui était là uniquement pour ça.
Voilà, donc pour les accueillir, pour les accompagner dans toutes leurs démarches administratives. Et vraiment, je pense que quand on arrive avec les traversées que les gens ont vécues, sans parler de ce qu'ils ont vécu dans leur propre pays, donc l'état vraiment de fragilité, de fatigue, de traumatisme. C'est quand on a quelqu'un qui est là et qui, vous, d'une certaine façon, vous prend quand même un peu par la main, ou en tout cas vous accompagne partout où il faut. Et Dieu sait ce que l'administration française, c'est quelque chose, voilà, il faut se
le pénible.
On se la prend de plein fouet, je pense, quand on n'est pas du tout habitué. Tout déjà, nous, on a du mal.
Bah, l'administration française, et en particulier l'administration de la préfecture, c'est quand même une longue histoire de discrimination et d'attitude parfaitement agressive à l'égard des réfugiés. Et il faut s'imaginer le méandre de tracasseries dans lesquelles sont jetées des personnes qui ne parlent pas la langue, qui ont fait, comme l'a dit Judith, une traversée extrêmement éprouvante. Par exemple, une des personnes qui était chez nous est arrivée et on a découvert qu'elle était très malade. Elle a eu deux opérations depuis. C'est une jeune femme fragile et c'est normal qu'un voyage de plusieurs milliers de kilomètres à pied éprouve quelqu'un de fragile. Mais l'essentiel de leur temps était consacré au début, effectivement, pas à être soutenu par l'administration, mais à affronter l'administration. Donc fort heureusement, ces deux personnes et le fait qu'elles habitent dans un théâtre n'y est peut-être pas étranger parce qu'elles avaient un soutien, parce qu'on a secoué un peu le cocotier, ont été régularisées, ont obtenu une carte de réfugié politique pour 10 ans, ce qui est très important. Mais la troisième personne qui vit chez nous, par exemple, parce que l'État ne remplit pas ses obligations, la troisième personne chez nous est régularisée, mais était de fait dans la rue. Et n'avait pas de lieu où vivre. Donc on a travaillé avec une association qui s'occupe spécifiquement des réfugiés syriens, qui s'appelle Revivre, avec lesquels on a organisé ça. Et quand on a de la place et qu'ils ont quelqu'un à nous proposer, on lui propose d'habiter au théâtre et de l'aider à dépasser sa situation pour pouvoir être régularisé, reprendre ses études en l'occurrence,
apprendre
le français, trouver travailler. Du travail, avoir ses papiers.
Mais donc vous accueillez les réfugiés même si ce ne sont pas des artistes ?
Absolument.
D'accord. Non,
on n'a pas choisi, on voulait pas choisir. Voilà, on s'en est remis à l'association Revivre. Et aussi à des personnes qui étaient prêtes à faire cette expérience singulière de vivre dans un théâtre. Mais en l'occurrence, ce ne sont pas des artistes.
Est-ce qu'il y a une, parmi les personnes qui ont été présentes justement à Confluence, les réfugiés qui ont été présents, il y a eu peut-être un intérêt de leur part pour les activités de Confluence, ou est-ce que même ils ont eu envie de participer ou
Très clairement, ils viennent voir tout, ils participent quand ils peuvent. On les embauche même pour faire souvent des repas syriens. Voilà, donc on peut aussi proposer d'accueillir des équipes et qu'elles aient à manger.
Mais peut-être aussi, est-ce que ce n'est pas un peu irresponsable d'accueillir toute la misère du monde alors qu'on est lourdement endetté ?
Alors,
pose la question, Éric Zemmour.
Le statut d'artiste nous permet d'être parfaitement irresponsable. Et donc d'accueillir, il faut d'abord parler de l'événement qu'a organisé Judith qui s'appelle Péril Syrie, où nous avons accueilli pendant 15 jours des artistes syriens en exil. Mais même si c'est les personnes que nous accueillons ne sont pas des artistes et que ça peut être perçu comme un acte politique, nous l'assumons complètement parce qu'il nous semble difficile de gérer une salle de spectacle qui, tout au long de l'année, parle d'utopie, d'un monde meilleur,
sans agir
concrètement, avec des gens qui sont à la rue, en bas de l'impasse de notre théâtre. Et ça semble être une responsabilité, à notre sens, des artistes, de s'impliquer sur le plateau de leur travail et dans leur vie, parce que c'est la même chose pour nous à l'égard des personnes qui sont dans ces situations.
Oui, moi je dirais même plus que je pense que les seuls lieux de culture qui fonctionnent aujourd'hui, ce sont des lieux de vie, des vrais lieux de vie, c'est-à-dire des lieux où on a envie de venir pas forcément non plus avec une envie précise de consommer quelque chose, mais où on s'y sent bien. Et ça, il faut s'en donner les moyens.
Et on continuera de parler des actions de Confluence et du lieu de vie qu'est Confluence pour le sauver après une petite pause musicale.
your nature. Can't do nothing without a little guilt. Take the train, the jog, and watch the pretty white girls in $1,000 sweatpants picking up after their purebreds. Hang at the playground with the rotund African women on their cell phones, pushing blonde babies with disinterest. I judge not, no pretend to be the judge. We all gotta make it work.
On vient d'écouter The City de Skeleton sur Radio Camping 93.9.
Radio Camping Paris. C'est tout l'été, du lundi au jeudi, de 19h à 20h sur le 93.9.
Les aventures de la philosophie à Santa Barbara, une reconstitution des choses de la vie qui sont devenues des théories. Épisode 3, Kant et la critique de la raison pure.
Tout le monde se souvient de la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant. D'un côté, il y a la limite de la raison, de l'autre, le droit de sortir de cette limite, finalement, la mise en place de règles pour exercer la raison. Pour vous, notre équipe de spécialistes a reconstitué les faits pour comprendre comment le philosophe a pu regrouper ce foisonnement d'idées, devenu aujourd'hui théorie. Une théorie qui nous fait... qui nous enquiquine. Écoutez plutôt... ce qu'il s'est réellement passé.
Excusez-moi, c'est ici que...
Oui, c'est ici.
Coucou.
Bonjour.
Bah, assieds-toi, mon chaton, enfin, mets-toi à l'aise.
C'est que... il s'agit de la première fois.
Ah, pas pour moi. Je vais mettre un peu de musique, ça va te détendre. t'a éteint ?
Mais ce n'est pas raisonnable.
Écoute donc, faut bien respecter la nature, les femmes, les hommes. Faut arrêter de penser parce que là, t'as la tête plus grosse que le corps.
Vous avez une façon très singulière de formuler les choses.
Bah écoute, dans la vie, il y a un début, il y a une fin entre les deux, faut bien s'amuser. C'est pour ça que t'es venu, non ?
Vous devez avoir raison. Oui, vous devez avoir raison.
Room service !
Qui va là ?
C'est le room service, enfin ! Pas besoin de s'inquiéter. Je commandais un peu de champagne.
Du champagne ? Mais vous n'y pensez pas ?
Oh, qu'est-ce qu'il est coincé !
Room service !
Je vais ouvrir.
En tenue d'Ève ?
En tenue de quoi ? Écoute, tu me fatigues, mon chaton. C'est très compliqué avec toi. Un ami m'avait déjà dit que tu n'avais jamais quitté ton village, mais là, franchement, je peux rien pour toi. La vérité crue. La vérité nue. Vous savez tout maintenant. À bientôt avec notre équipe d'enquêteurs épris de vérité pour un nouvel épisode des aventures de la philosophie à Santa Barbara.
Et voilà, c'était notre saga de l'été. La critique de la raison pure revisitée par Sarah sur Radio Camping.
Radio Camping Paris. Du lundi au jeudi, cet été, de 19h à 20h.
Nous sommes toujours en plateau pour parler donc de Confluence et de cette journée de samedi, cette journée de soutien importante pour le lieu. On va revenir un petit peu sur le programme. On a parlé de débats qui sont organisés avec des artistes, avec des acteurs politiques. Est-ce que vous savez déjà un petit peu qui sera présent sur ces débats ?
Nous avons invité des élus verts, des élus communistes. Nous avons invité un certain nombre d'artistes, de responsables de lieux, à discuter donc de savoir est-ce que la culture indépendante est soluble dans le socialo-libéralisme, c'est-à-dire pour le prochain épisode de Santa Barbara, pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour un pouvoir de gauche de voir laisser mourir les lieux culturels indépendants. Et quelle est l'adéquation entre l'idée d'un service public important, un service public de la culture, et le libéralisme économique, qui est la loi du plus fort.
Donc voilà. Ça, ce sera le grand thème discuté samedi.
Mm-hmm. Absolument. Et puis ensuite, comme l'a dit Judith, des artistes interviendront, feront des petites performances, des petits discours très courts pour dire combien, qu'est-ce qu'ils ont fait là à Confluence, comment ils y ont travaillé, comment ils y ont progressé.
Ou des coups de gueule, des coups de colère.
Voilà. Ce qui est important pour nous aussi, c'est de dire à nos auditeurs que tout le monde est le bienvenu, de vous inviter à venir nombreux, soutenir ce lieu, qui vivant ou mort plus tard, a compté sur la scène et compte sur la scène culturelle parisienne. Et c'est important aussi de dire à nos élus que ce genre de lieu est indispensable à la vie des quartiers. Je veux dire une petite chose parce que...
Mais allez-y, j'en prie.
C'est pour moi un peu représentatif. Dans les moments de tension extrême, et je pense aux attentats qui ont eu lieu à Paris, le lendemain, les déclarations qui sont faites, je me rappelle de Manuel Valls parlant de l'apartheid dans les quartiers, je me rappelle de Malek Bouti parlant d'un grand plan Malraux pour les quartiers, donc tout le monde avait compris un grand plan Marshall. Moi, je me suis dit, bah, ça y est, l'idée,
il y a des choses qui se débloquent.
Il y a des choses qui vont se passer au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de la culture. Tout d'un coup, on se rappelle que c'est important dans les quartiers. Et puis, on a oublié, c'est passé. Et on attend le prochain
pire
moment
que
de temps.
Ça, Vigipirate a fermé tous les établissements.
Voilà.
Mais parce que c'est quand même très important. Pour exemple, moi, ma première, j'ai fait un spectacle sur la guerre d'Algérie en réponse aux attentats qui se sont passés après Charlie. Et la première, elle a été annulée à cause du plan Vigipirate parce que justement, aucun établissement scolaire ne pouvait se déplacer. Donc il y a un paradoxe total, en fait.
Et je crois qu'à un moment donné, il faut que les discours démagogiques cessent pour prendre des initiatives parce que sinon, après, il est trop tard pour venir pleurer parce que le Front National fait 30%.
Parce qu'une institution comme Confluence, elle a un rôle aussi social dans le
quartier. Elle a un rôle social. Elle a un rôle culturel,
elle
a un rôle politique et c'est important. Et il faut se souvenir que c'est important parce que cette énergie qui est déployée par les salariés, par les artistes, par le public qui vient là, elle n'est pas vaine.
Mais c'est la question de la création indépendante également. On est dans un système où la plupart des lieux sont sur des projections à 1-2 ans, ce qui fige beaucoup la création.
Il n'y a, pas de stabilité qui permet que les artistes puissent prendre un peu des risques dans leur travail.
Exactement. Et c'est typiquement le genre d'endroit à Confluence où on peut prendre des risques, où nous prenons des risques, où on programme parfois à 3 mois, ce qui nous permet de réagir de façon extrêmement réactive par rapport à l'actualité. Parce que quand on a figé une programmation 1 à 2 ans à l'avance, comment est-ce qu'on peut être
comment on peut s'adapter?
Et comment est-ce qu'on est en symbiose avec ce qui se passe autour de nous?
Parce qu'on dit beaucoup que Confluence est un lieu très ancien. Pour rappeler, Confluence, ça a démarré, je crois, en 1975.
Était un lieu de résidence de cinéastes à Clichy en 1975, qui a déménagé dans le 20e arrondissement en 1988 pour devenir un lieu de programmation.
Donc on parle d'une vraie institution, et j'imagine que seront présents samedi des artistes, du coup, on l'a dit, qui sont passés par Confluence, qui ont vécu à Confluence. Est-ce que c'est développé un petit peu un esprit Confluence avec des artistes qui sont arrivés un peu novices et qui sont revenus déjà plusieurs fois? Est-ce que ça vous arrive de revoir souvent les mêmes têtes?
Je dirais qu'en ce moment, on commence à revoir des gens qui reviennent, ouais. Parce qu'il y a quelque chose du système qui est tellement figé qu'il y a des personnes qui reviennent maintenant parce que Ariel l'a dit, c'est très important pour la jeune création, mais c'est très important aussi tout simplement pour un grand nombre d'artistes qui ont plus d'endroits de visibilité, je dirais, tranquille, en tout cas libre. Et du coup, oui, il y a des personnes qui ont envie de revenir dans ces lieux-là parce que c'est le seul endroit où ils peuvent se permettre de faire des choses qu'ils ne feront pas ailleurs.
Et puis, il y a un réseau d'artistes qui a travaillé là, qui a progressé là. Il y a des artistes qui sont installés là pendant des années parce qu'ils ont trouvé un endroit qu'ils pouvaient s'approprier. Et c'est bien le but d'un outil culturel qui soit approprié par les artistes pour pouvoir travailler tranquillement, c'est-à-dire dans la durée, et expérimenter, réfléchir à leur œuvre, écrire, faire tout ça. Et donc des artistes qui ont travaillé là pendant des années et qui, évidemment, sont très attachés au lieu.
Et j'ai envie de vous demander maintenant, alors qu'on approche doucement de la fin de cette interview, c'est quoi les solutions maintenant pour Confluence? Quels sont les recours qui vous restent pour éviter de devoir quitter le lieu, pour éviter la liquidation judiciaire? Est-ce que c'est des choses qui sont faisables ou est-ce que c'est très compliqué?
C'est très facile. Nous avons besoin d'un peu d'argent et nous l'avons demandé à l'État, nous avons demandé à la ville et nous avons besoin de trouver une solution en termes de relogement. C'est-à-dire que la ville, notamment de Paris, nous propose un espace qu'on pourrait travailler, dans lequel on ferait quelques aménagements pour pouvoir continuer ce projet s'il est important pour eux.
Concrètement, l'échéance aujourd'hui, c'est quoi? Ça se compte en jours, en semaines?
En semaines.
C'est-à-dire que là, on passe l'été.
On ne sait pas si on passe l'été, on n'a pas de visibilité à long terme. On ne maîtrise pas non plus tous les aspects juridiques. Bon, on a un avocat, bien sûr, mais on n'est pas des spécialistes juridiques. Mais en termes économiques, ça se pose en quelques semaines. Oui.
Eh bien, je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions de nous avoir écoutés.
D'être venus nous parler de ça, Judith et...
Ariel.
Et Ariel.
Et merci. Et vous pouvez signer la pétition qui est en ligne, envoyer des lettres à la mairie de Paris.
On peut écrire à la mairie. On rappelle la journée de samedi. Commence à 16h. À Confluence, c'est gratuit. Il y aura de la bière, il fera beau.
Et de la musique.
Et de la musique. Sur le site de Radio Campus,
et bien sûr, toutes les infos seront sur le site de Radio Campus. Merci beaucoup à vous.
Radio Camping Paris.
Kelly, c'était sympa, merci.
On vous envoie le teaser ou vous allez trouver?
Oh. On part pas sur une petite pause musicale? Ah, mais tout à fait, exactement. C'est moi qui perds mes fiches puisque c'est maintenant l'heure de la chronique de Guillaume. Guillaume, salut Guillaume, toi qui es là depuis me troller depuis le début. T'as vu, j'ai bien foiré ton lancement de chronique.
Ah, ça me fait tout à fait plaisir.
De quoi tu vas nous parler aujourd'hui,
Guillaume?
Eh bien,
je vais vous parler d'actualité, bien sûr.
Ton créneau quotidien.
Ben oui.
Tu ne sais t'en détacher.
Ouais, bonsoir. Vous êtes bien dans le pays où on parle plus de l'interdiction des véhicules d'avant 1997 dans Paris que de la mort de plus de 200 Arabes explosés dans un bus à Bagdad. C'est la fête, c'est l'été, il fait beau, vous êtes bien à l'écoute de Radio Camping. Et ça signifie donc en toute logique que vous êtes stagiaire à Paris pour l'été et que vous vous prostituez au mépris de vos idéaux pour faire des PowerPoints ou alors des présis pour les plus chanceux. Oui, comme la météo pourrait vous donner la Gaule, moi j'ai décidé de vous l'enlever en vous parlant justement de l'actualité vue de Gaule. Non, ce soir, on ne fête pas la demi-finale de l'Euro pour les Bleus suite à leur victoire 5-2 contre une bande de footballeurs consanguins semi-professionnels. On ne fête pas non plus la première présentation d'Erwan. On fête la loi travail enfin adoptée, la France debout, tous ensemble vers le redressement compétitif dans la justice pour tous. Adoptée suite à un débat parlementaire nourri qui aura permis d'améliorer cette loi grâce au travail de nos élus. Non, en fait, le débat se résume en 4 caractères, soit 2,5% d'un tweet, 49.3, le désormais célèbre article de la Constitution française qui est en gros, pour celles et ceux qui dormaient en cours d'éducation civique, l'équivalent parlementaire du totem d'immunité dans Koh-Lanta ou de l'étoile dans Mario Kart. Le 49.3, tu l'enfiles et tu les enfiles tous, c'est un peu comme le déo Axe, mais sans la bonne odeur virile. Axe, Ménène, Carrefour, Discount, Déodorant, Pierre d'Alain, Monoprix, ça va pour la pub, le CSA. Au niveau de l'opposition à la loi travail, les frondeurs se sont dégonflés comme le roi Tommen Bab tout fragile dans Game of Thrones. Les derniers manifestants de la CGT ont défilé hier dans une ambiance apaisée, puis ils sont partis rejoindre leur mobilhome à Arcachon. Quant aux dernières nuits de boutistes, ils sont repartis de la place de la République pour aller jouer du djembé vers des zones à défendre plus ensoleillées. Je sais que ces informations politiques, à l'image d'un peigne pour notre présentateur ou de conseils en séduction pour moi-même, sont parfaitement inutiles, mais je tenais quand même à vous donner des nouvelles de cette planète étrange qu'est la sphère gouvernementale dans laquelle l'Académie française ne semble pas avoir le pouvoir de donner aux mots un sens. Ainsi, dans la bouche de Myriel El Khomri, on peut trouver des traces d'arachides et de semences patronales. Je disais donc, dans la bouche de notre ministre du Travail, le 49.3 n'est pas un passage en force. On suppose donc qu'une pénétration non consentie n'est pas un viol pour Myriam le Fusible, qu'une branlée 5-0 contre l'Allemagne ne serait pas du tout une humiliation pour les Bleus, et que ne pas voir son zizi quand on essaie d'uriner n'est pas un signe d'obésité pour le président. Le viol et l'agression sexuelle, justement, il paraît selon nos parlementaires que c'est si trivial, si dérisoire, si peu important, ce n'est quand même pas ça qui devrait en empêcher un honnête député un peu trop fétichiste des pieds de se représenter pour sa réélection pour un quatrième mandat. Oui, Georges Tron, membre des Républicains, c'est à toi que je parle. Député de l'Essonne, c'est pour toi mon chou. Félicitations à toi Georges, tu as probablement si bien convaincu tes camarades députés de rejeter un amendement qui proposait de rendre inéligibles les parlementaires coupables de violences sexuelles. Un amendement qui a été rejeté alors que seulement 15 députés étaient présents à l'Assemblée. Pour vous donner une comparaison, hein, c'est un peu comme si les bénévoles de Radio Campus y décidaient de copier les parlementaires en termes d'assiduité, on devrait réaliser, présenter et chroniquer une émission en disposant pour toute ressource humaine d'un mollet d'un volontaire de service civique. Auditeur, auditrice, une chronique c'est comme une bonne vieille sodo, il faut conclure et élargir en beauté. J'en déduis donc que la France est devenue le seul pays au monde où il est plus facile d'être un agresseur sexuel parlementaire qu'un arabe titulaire en équipe de France. Je vous laisse, je vais finir de creuser ma tranchée aménagée pour la demi-finale spéciale centenaire de la bataille de Verdun demain soir, en espérant que la pelouse du Vélodrome sera en meilleur état que la chevelure d'Erwan, malgré les tirs d'obus. Big bisous.
Il a un flow incroyable et un ton acide si rafraîchissant. C'était la chronique de Guillaume. Et mes cheveux sont absolument parfaits, je te permets pas de dire ça. On se retrouve après une petite pause musicale, cette fois une vraie. et on vient d'écouter Création de Beyond the Wizard's Sleeve sur Radio Camping 93.9.
Vous écoutez Radio Camping Paris sur le 93.9.
Et c'est maintenant l'heure de notre fiction de l'été, un nouvel épisode d'Hôpital Bretèche, c'est le troisième de la semaine.
Bon, allons-y.
Où est le professeur Brousseau ?
On se fout du professeur Brousseau. Personne ne veut savoir où est le professeur Brousseau. Chirurgien compétent ici, c'est moi.
J'ai mal !
Il est pas endormi, lui ?
Non, l'anesthésiste est malade.
C'est n'importe quoi ! Bon, c'est parti, scalpel !
Quoi ?
Le petit couteau très pointu à votre gauche.
Ouais, enfin, doucement, hein !
Christine, tu es là ?
Michel ? Mais qu'est-ce que tu fiches ici ?
Christine, je n'en peux plus de souffrir ton absence. Je me suis fait engager dans cet hôpital.
Michel, je vais pourtant être très clair. Tout est fini entre nous.
Mais Christine...
Ça suffit, Michel. Cesse d'insister, tu sais bien que ça m'énerve.
Oui, cesse d'insister, Michel, s'il te plaît.
Mais c'est qui, lui ?
Je suis un malade.
Ouais, c'est ça. Peux-tu me dire ce que tu fais avec ta main sur sa poitrine ?
Elle est pas sur sa poitrine, elle est dedans. Et j'essaye de lui faire un pontage. Et j'ai besoin de concentration, sinon je vais le louper.
Ah bon ?
La ferme, vous !
Christine, comment puis-tu oublier toutes nos années de bonheur ? Nos dîners aux chandelles, nos ébats dans la salle d'opération ?
C'est dégueulasse !
Pas de commentaires, compresse !
T'es dessous à friolant ?
Bon, tais-toi, Michel, j'ai besoin de concentration !
Non, il peut continuer, ça devient intéressant !
Mêlez-vous de ce qui vous regarde !
Mais pourquoi tu accordes plus d'importance à cet homme qu'à moi, Christine ?
C'est mon métier, et je dois être très vigilante. Il a peu de chances de s'en sortir.
Quoi ?
Vous n'êtes pas censé entendre ça, endormez-vous !
Ah, ça va être un peu difficile maintenant.
Professeur, nous sommes en train de le perdre.
Michel, sors d'ici, tu embêtes tout le monde !
Tu ne te débarrasseras pas de moi comme ça, Christine !
Et c'était le troisième épisode de notre fiction de l'été Hôpital Bretèche, le troisième de la semaine, écrit par le délicieux Maxime, avec des dialogues toujours aussi fascinants. On approche tout doucement de la fin de cette émission, il nous reste 2-3 minutes, juste assez eh bien, pour commencer à remercier tous ceux qui ont participé à la mise en place de cette émission, Elsa et Camille. Remercier également Guillaume à la chronique, Charlène à la réalisation, Sarah et Maxime pour ces fictions, et toi aussi qui a participé à cette émission, Dania, qui est venue donner un petit peu de la voix. Également, puisqu'il faut vous en parler, la soirée, le bal des incendies qui se déroulera le 13 juillet à la fabrique où nous étions déjà, il y a une semaine. À la station, il y a une semaine, une émission spéciale avec Cassidy en concert et Kermes et un DJ set qui sera également ouvert, organisé par Radio Campus Paris. On retrouvera après cette émission Les Oreilles de Jean Kev, une émission de Radio Campus Rennes qui sera rediffusée, qui est une rediffusion dans laquelle il reçoit Mawimbi. Il nous reste 2 minutes à tenir à l'antenne.
Qui avons-nous reçu aujourd'hui ?
Tu me poses une question alors que j'ai posé mes fiches et je marque que nous avons reçu.
Guillaume, tu t'en souviens peut-être.
Nous avons reçu Ariel et Judith qui sont venus nous parler donc de Confluence.
Un théâtre menacé, engagé politiquement, qui accueille des Syriens réfugiés et qui fait des choses bien et il y a des bières pas chères.
C'est ce que j'ai retenu de l'émission. C'est ce qu'il fallait,
c'était l'essentiel.
C'était ce qu'il fallait, retenir. Super émission, c'est vrai, il faut le dire aussi.
On rappelle quand même que. Où est la station ? C'est Porte d'Aubervilliers.
C'est Porte d'Aubervilliers.
Pour la soirée. Redis la soirée très importante.
C'est
soirée,
marrant parce qu'en fait, c'est un bal des incendies le soir du bal des pompiers.
Voilà, c'est une espèce de contre-bal.
C'est le même soir que le bal des pompiers, c'est ça.
Ouais. On
c'est
va aller faire des incendies parce qu'on n'est pas comme les autres à la station.
Ça va être
de la
feu.
Un lieu exceptionnel, la station. Un peu atypique, mais très bien sur la Porte d'Aubervilliers.
Oui, c'est vrai.
On est un peu dans 93, mais pas trop. Donc on peut y aller sans.
En fait, on est un peu sur le périph', en fait.
On est complètement sur le périph'.
On est complètement sur le périph'.
C'est fascinant.
Si vous n'avez pas écouté cette émission, qu'on a fait en direct de la station.
Ouais, c'est donc podcast de
l'ancienne gare minière, si je dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça. Et en attente de rénovation totale pour faire peut-être autre chose, donc ce qui fait que
un espace temporaire. Un espace temporaire.
Temporaire.
bah,
contemporain, mais qu'ils aimeraient
s'accrocher à
qu'ils
l'espace.
Qu'ils aimeraient voir perdurer un peu plus. Ouais. Il faut remettre.
Mais en tout cas,
peu,
ça fonctionne.
Ça fonctionne grave bien.
Tous les Parisiens qui ont peur de traverser le périph' à y aller, parce que c'est vraiment sur le périph'.
Ah oui, il y a même pas de risque.
Vous n'êtes pas trop de risque.
Physiquement, c'est encore dans Paris. Attention, on ne sort pas des limites de la commune. Pour ceux qui sont allergiques à la banlieue, c'est bon, c'est dans Paris.
Ça se joue à 5 mètres près.
C'est une porte de Paris.
Et c'est à partir de quelle heure cette soirée d'incendie?
Eh bien, cette soirée commence à 18h30.
Le jeudi 13.
Le jeudi 13, tout à fait. Et non, un vendredi 13, ça ne portera pas.
C'est
tôt,
18h30. C'est un mercredi, c'est un mercredi.
C'est un mercredi, mais ce n'est pas un vendredi, c'est ça qui compte.
C'est ça. Ouais, c'est pas un
mercredi
13.
C'est un vendredi 13 qui tombe un mercredi, hein, finalement.
C'est ça.
Et
ça va être
trop bien. Est-ce qu'il y aura Radio Camping? Effectivement, on fera une émission en direct de là-bas.
On sera tous là.
Oui, puisqu'on est à 19h.
C'est vrai, moi je serai là aussi, je pense.
Ouais, grave.
Et ça se poursuit donc jusqu'à minuit avec les DJ sets. La dernière fois, on avait eu le droit à un peu de hip-hop, c'était assez sympa. Guillaume, je me rappelle que tu avais plutôt apprécié.
J'étais chaud.
Le projet à mal, on repart de la série.
Le projet à mal, c'était vraiment très très cool. Ouais. Et maintenant, je peux dire au revoir et remercier après ce meublage, et je ne saurais. Je
pas
vais
du
commencer
tout, on donne
par
informations.
Remercier mes camarades autour de la table, Dania, Guillaume, Maxime,
mais merci
Sarah.
Merci Erwan pour cette première fois fabuleuse, même si tu as fini très trop vite. That's what she said.
C'était les deux plus longues minutes de ma vie. Merci à Elsa.
On se retrouve demain.
Et on me retrouve, demain, on me retrouve pas demain, tiens, on retrouve Dania demain.
Ah, oui, demain. Ouais, je m'auto-annonce, demain c'est moi qui anime Radio Camping.
Ouh,
c'est
génial.
Ça va être trop bien.
Merci également à Camille qui m'a aidé à préparer cette émission tout à l'heure, à
tu
Martin aussi.
Non, ça tu l'avais pas encore dit.
On peut partir maintenant, ça
suffit. Merci Camille.
Je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci à vous, chers auditeurs également, et à demain pour une autre Radio Camping.
Bisous.